cours d'économie.
Bonsoir à toutes et à tous. La mise en œuvre des mesures urgentes du gouvernement pour stabiliser le marché de change porte du résultat. Le franc congolais s'apprécie depuis le week-end. Le taux sur le marché parallèle a baissé, passant à 2200 voire 2300 francs congolais pour 1 dollar, alors qu'avant il était à 2600 ou 2700 francs. Des manques à gagner énormes pour la province de l'Ituri. 80% d'or de la province sont frauduleusement exportés vers les pays voisins de la RDC. C'est ce que disent les acteurs miniers eux-mêmes et les notables de la région. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons Écho d'économie par cette accalmie observée depuis le week-end dernier jusqu'à ce lundi sur le marché de change. À l'indicatif, c'est-à-dire selon la Banque centrale du Congo, il faut compter 2379,28 francs congolais pour 1 dollar américain au taux acheteur et 2476,40 au taux vendeur. Sur le marché parallèle à Kinshasa, le taux a chuté de 2700 francs congolais le dollar pour se situer entre 2200 et 2300 francs congolais auprès des changeurs de monnaie communément appelés cambistes. Cette appréciation du franc congolais résulte de la mise en application par la Banque centrale du Congo et le gouvernement des mesures urgentes prises pour stabiliser le marché de change, ce qui a permis à la Banque centrale d'intervenir sur le marché à hauteur de 150 millions de dollars américains. Début ce lundi à Kinshasa du tout premier forum économique sous le thème « Partenariat économique pour une croissance partagée entre la RDC et l'Angola ». Il s'étend sur 2 jours, soit ce lundi 31 juillet à demain, mardi 1er août. Les décideurs et opérateurs économiques des deux pays vont débattre sur les opportunités de construire un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique aux deux nations. Ils vont aussi alimenter réflexion et analyse sur le potentiel de chaque pays, sur les opportunités d'affaires et investissements, les synergie et complémentarité entre les deux économies aussi. Aussi, les infrastructures transfrontalières sont au rendez-vous des débats. En même temps, se tient l'exposition de produits et services produits localement en RDC et en Angola. Dans le Nord Kivu, la société minière de Bisunzu SMB en abrégé est déchue de tous les droits sur son permis d'exploitation numéro 4731 en territoire de Masisi par le ministre des Mines. C'est le cadastre minier qui a notifié la SMB de cette décision contenue dans un arrêté ministériel du 14 juillet, signifié en date du 28 juillet par le tribunal de grande instance de Goma. Il faut dire que les activités de cette société appartenant au député national Edouard Mwangachuchu avaient été suspendu par la ministre des Mines au mois de mai 2023 après la découverte d'une cache d'armes dans son site de Rubaya. Cette décision intervient après 6 mois de mise en demeure adressée à la SMB. Au Sud Kivu, pendant ce temps, le groupe thématique mine de la société civile appelle à l'annulation de l'arrêté ministériel portant déchéance de l'agrément de Congo Gold Raffinery, propriétaire de la raffinerie d'Ora Bukavu. Pour ces acteurs, cet arrêté comporte un caractère conflictogène et déstabilisateur pour le climat des affaires. Ils ont fait cette déclaration le week-end dernier à Bukavu. Pour rappel, l'inauguration de la toute première raffinerie d'or qui devrait avoir lieu mercredi dernier à Bukavu a été reportée sine die. C'était après que la ministre des Mines ait retiré l'autorisation de fonctionnement comme entité de traitement à Congo Gold Raffinery pour non-respect de ses obligations sociales, notamment celles relatives à l'élaboration du cahier des charges des responsabilités sociétales. Cela a étonné des experts pour qui seuls les titulaires des droits miniers d'exploitation et d'autorisation d'exploitation des carrières sont soumis à cette obligation d'après l'esprit du code et règlement minier. Au moins 80% de l'or produit en Ituri échappe totalement au contrôle des différents services et alimente les groupes armés actifs dans cette province. Ce sont les acteurs miniers eux-mêmes et différents notables de l'Ituri qui l'ont dit vendredi au cours d'une rencontre sur la gouvernance aurifère dans les territoires de Djougou et Mambasa. Ils affirment que la province perd beaucoup d'argent parce que l'or de l'Ituri est frauduleusement exporté dans les pays voisins. Ils demandent au gouvernement d'accélérer le processus de désarmement des miliciens pour lutter contre l'exploitation illicite des minerais. Ezekiel Mouzalia.
Pendant deux jours, des acteurs miniers, la société civile ainsi que différents notables des territoires de Djougou et Mambasa ont passé au peigne fin la législation minière et son application dans la province de l'Ituri en proie à l'activisme des groupes armés. Ils ont aussi fait la cartographie des miliciens ainsi que des militaires qui se livrent à l'exploitation illégale de l'or dans ces deux territoires. Tiber Kadjemba, président de la société civile, des ONG et expert des questions minières dans le projet Madini Komaendeleo, indique que plus de 80% de l'or sont produits dans ces territoires et une grande quantité est exportée frauduleusement dans les pays étrangers, notamment voisins. Une situation qui, selon lui, serait à l'origine du financement des groupes armés qui sèment terreur et désolation dans la province. Tiber Kadjemba.
Il y a au moins 80 ou 90% de l'or qui part frauduleusement sans être enregistré au niveau des statistiques. Vous comprenez que la fraude est totale. Il faut obligatoirement on accélère le PDDRC dans sa mise en place. On a demandé qu'il y ait un fort programme de démilitarisation du site minier.
Cette rencontre qui a bénéficié du soutien technique de la MONUSCO rentre dans le cadre de l'exécution d'une feuille de route et des recommandations adoptées au bureau du secrétariat technique du processus de Nairobi.
Ituri encore, les opérateurs économiques du Nord Kivu déplorent la persistance de l'insécurité sur les tronçons Mambasa Komanda Luna en Ituri et Kanyabayonga Rutshuru dans le Nord Kivu. Conséquence, plus de 100 véhicules de transport sont incendiés depuis janvier 2023 par des groupes armés et le trafic suspendu dans la zone occupée par le M23. Dans un échange la semaine dernière à Bunia avec le gouverneur de l'Ituri, la Fédération des entreprises du Congo, Beni Lubero, a demandé au gouvernement des deux provinces de sécuriser cette région et de réhabiliter d'urgence ces routes. Isaac Remo.
Dans un mémorandum adressé au gouverneur de l'Ituri et du Nord Kivu, les opérateurs économiques du secteur des transports ont évoqué plusieurs problèmes auxquels ils sont confrontés. Il s'agit notamment de la persistance de l'insécurité sur la route nationale numéro 4 et des dessertes agricoles, les délabrements très avancés des axes routiers qui exposent les véhicules aux attaques des groupes armés. Le dernier cas s'est produit le 21 mai dernier lorsqu'un convoi de véhicules a été bloqué dans les villages de Sokotano. Les usagers ont été surpris par les ADEF qui ont incendié 7 camions contenant des marchandises. Du côté du Nord Kivu, ils fustigent les blocages par le M23 de la circulation des biens des personnes sur l'axe routier Kanyabayonga Rutshuru. Face à tous ces défis, ces opérateurs économiques plaident pour la reprise de l'escorte militaire pour garantir la sécurité des usagers et les relèvements des militaires suivis du redéploiement des nouvelles unités des FARDC avec l'appui de l'armée ougandaise. Ils demandent aussi la réouverture des trafics entre Kanyabayonga Rutshuru pour faciliter les échanges commerciaux. Sur les plans économiques, ils ont invité le gouvernement à réhabiliter les tronçons d'Alia Katabei et Otmaber, Idou et Komanda Loloa et d'assurer l'entretien de cette route en effectuant des travaux de cantonnage manuel. Le gouverneur de l'Ituri a déclaré que les démarches sont en cours pour identifier l'entreprise qui va exécuter ces projets d'entretien de ces tronçons. Concernant la situation sécuritaire, le gouvernement a dit déployer des efforts pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi.
Dans la province de la Tchopo, madame le gouverneur de province a procédé vendredi dernier au lancement officiel de la distribution de boutures de manioc et des rejets de bananiers plantains pour la saison agricole, saison B de l'année 2023. Cette activité s'est déroulée au point kilométrique 43 sur la route de l'Ituri. Quelle est la superficie de la concession exploitée et quels sont les objectifs poursuivis par l'ITA et quelles sont ses attentes? C'est un reportage de Jacques Mokonkole.
Ce site de multiplication de semences se trouve dans une concession de 65 hectares de l'Institut facultaire des sciences agronomiques IFA Yangambi. L'ITEA y a cultivé essentiellement du manioc et des bananiers plantains sur une superficie de 10 hectares grâce au financement du gouvernement de la République. Selon le site manager de l'ITEA, le professeur Godefroy Mondé, ce programme s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle d'augmenter la production de l'agriculture et faire en sorte que cette dernière prenne sa revanche sur le sous-sol. Après la présentation de réalisation dans ces champs semenciers, Godefroy Mondé a sollicité des autorités un peu plus de moyens afin de maximiser la production et assurer la transformation de leurs produits.
Nous avons ici 10 hectares de manioc de la variété Ilona et nous avons déjà 10 hectares de bananiers. Le manioc va produire, mais qu'est-ce que nous allons faire de tubercule. Nous allons distribuer le bouture. La population va se mettre à produire. Mais que ferons-nous de la production?
Dans sa réplique, la gouverneure des provinces a loué la vocation agricole de son entité avant de démontrer l'importance du manioc et des bananes plantées dans l'alimentation. Pour Madrène Nikomba, les scientifiques et les politiques doivent y accorder beaucoup d'attention pour une production beaucoup plus importante. Elle s'est montrée disposée à y contribuer.
Ma politique consiste, de ce fait, à attirer davantage de partenaires dans la province de la Tchopo pour nous appuyer, ainsi que les communautés locales dans l'industrialisation de l'agriculture. Voilà pourquoi je félicite d'entre de jeu l'ITEA, partenaire impliqué dans cette démarche qui fournit de nombreux services à notre population. Aux partenaires de mise en œuvre, la province de la Tchopo est ouverte à collaborer et vous garantit tout son soutien chaque fois que vous le désirez.
Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Nous terminons par Kinshasa. Au moins 4500 femmes micro-entrepreneurs bénéficient d'une formation. 2500 autres reçoivent des subventions en nature. 750 jeunes entrepreneurs reçoivent une assistance technique et des subventions en espèces. 500 PME sont bénéficiaires des subventions de contrepartie. 4 centres de PME ont été créés. 3000 nouvelles entreprises créées par les bénéficiaires ciblés. Les revenus moyens des micro, petites et moyennes entreprises bénéficiaires ont augmenté de 30%. 9000 emplois formels créés parmi les micro, petites et moyennes entreprises bénéficiaires et 5 réformes ont été mises en œuvre pour soutenir le développement du secteur privé. Voilà, on chiffre l'impact du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEM PME qui se clôture ce lundi 31 juillet. Jusle Moussaou a pris part à l'atelier de restitution des actions menées dans le cadre de ce projet. C'était samedi au blason Fleuve Congo Hôtel.
Le PADEM PME est un programme d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises, femmes entrepreneurs et jeunes entrepreneurs que le gouvernement de la RDC a mis en place pour la promotion des initiatives économiques des opérateurs de cette catégorie dans le cadre de sa stratégie nationale de développement du secteur des petites et moyennes entreprises, et cela avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Financé à hauteur de 100 millions de dollars américains, ce projet a été exécuté dans les villes de Matadi, de Lubumbashi, de Goma et de Kinshasa. Ces villes ont été ciblées en raison du soutien affirmé de leurs gouvernements provinciaux, de la disponibilité des infrastructures, de l'existence d'un tissu des PME et des grandes entreprises industrielles offrant des possibilités de chaîne de valeur. Le projet a ciblé les MPME œuvrant dans les secteurs de la transformation les plus susceptibles de générer des activités à valeur ajoutée et des emplois, notamment l'industrie légère, l'agro-transformation et les services. C'est à travers des concours de plans d'affaires que les bénéficiaires de ce projet ont été sélectionnés. Au regard de l'impact socio-économique du PADEM PME, le gouvernement de la République a lancé en juin 2022 le projet Transforme, une deuxième expérience, toujours dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des PME adoptée en 2016 pour transformer l'économie nationale par la diversification des secteurs de production.
Merci Jocelyne Moussao et merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. Ce numéro de Écoute Économie est à réécouter au plaisir sur www.radiookapi.net.